Jésus. Alors on va lire ensemble un texte que l'on partage assez souvent dans nos cultes, puisqu'il nous ramène à ce que vous voyez devant vous, la table avec le pain et le vin, ce que nous appelons la Sainte Cène, la Cène, le dernier repas que Jésus va prendre avec ses disciples. Et l'apôtre Paul en a parlé dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 23. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23, nous lisons l'ensemble du passage. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sans révérence, sans honneur, sans comprendre, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, que chacun donc s'examine lui-même, qu'il rentre au-dedans de son cœur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Dans nos églises, nous avons l'habitude de partager régulièrement, pour ne pas dire tous les dimanches, le pain et le vin. Et nous signalons régulièrement que ceux qui ont été baptisés en tant que personnes adultes, je ne parle pas du baptême bébé, du baptême enfant, mais je parle du baptême adulte, peuvent prendre le pain et le vin avec nous. Pourquoi nous disons cela? Tout simplement parce que on pense très justement que ceux qui se sont engagés dans les eaux du baptême ont compris ce que Jésus avait fait pour eux à la croix, ont compris la signification de la mort de Jésus à la croix, et c'est pour cela qu'ils sont tout habilités, évidemment, à prendre le pain et le vin. Mais dans la Bible, il est mentionné nulle part que ce sont ceux qui sont baptisés qui prendront le pain et le vin. Alors, comme nos réunions sont publiques et que pas mal de personnes peuvent y venir, il est évident qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois, qui découvrent l'Évangile, et on est tellement heureux de les accueillir. À chaque fois, c'est un bonheur d'accueillir ceux qui ne connaissent pas l'Évangile pour qu'ils entendent la bonne nouvelle et qu'à leur tour, eh bien, ils fassent une belle expérience avec Dieu. Mais néanmoins, voyant le pain et le vin, il pourrait avoir tendance, parce que ça rappelle quand même ce qui se fait traditionnellement dans les églises chrétiennes, il pourrait avoir tendance à dire « c'est formidable, je vais participer également ». Et là, nous avons dans le texte de l'apôtre Paul comme un conseil. Certains pourraient y voir un avertissement, mais j'y vois là un conseil. Et de vous à moi, si vous ne savez pas pourquoi Jésus est mort, si vous ne pouvez pas dire « Jésus est mort pour moi », c'est le titre de cette méditation ce matin. Si vous ne pouvez pas dire que Jésus a sacrifié sa vie pour vous, si vous n'avez jamais pris conscience du péché, de la noirceur du péché et de la culpabilité, de la condamnation du péché, ben en somme, Jésus n'est rien pour vous. En tous les cas, pas votre sauveur. Certainement l'agneau de Dieu, le sauveur du monde, parce que vous le savez, vous l'avez entendu, mais il ne représente pas réellement qui il est pour les enfants de Dieu, les croyants, les chrétiens. Remarquez, c'est une expérience à faire. L'Évangile n'est pas exclusif, l'Évangile ne met personne dehors. L'Évangile est inclusif, l'Évangile rassemble les gens, l'Évangile rassemble les peuples. Et l'idée, évidemment, de Dieu, c'est de vous toucher, de vous bénir et que vous fassiez partie de la famille. C'est ça, la volonté de Dieu. Mais néanmoins, si tout cela pour vous est assez mystérieux et vous n'avez pas saisi, vous n'avez pas compris, que vous preniez ou pas, ça ne changera rien. Vous ne prendrez pas une bénédiction en prenant le pain et le vin si vous n'avez pas saisi à quoi correspond l'œuvre de Jésus à la croix. Et à cette époque-là, dans cette église de Corinthe, il y avait des gens qui pour plusieurs, malheureusement, étaient déjà croyants, avaient fait une expérience avec Dieu, mais ils avaient pris l'habitude de prendre à la légère, je vais le dire comme cela, à la légère, le pain et le vin. Pour eux, ils se rassemblaient, ils mangeaient ensemble, et quand arrivait un certain moment, tout le monde était réuni, tout le monde était rassemblé, alors on prenait le pain et le vin, sauf que la Bible dit qu'à certains moments, certains malheureusement avaient déjà trop bu, donc ils étaient à moitié ivres, et prendre le pain et le vin dans des conditions comme ça, ça ne sert à rien. Même pas conscience de ce qu'ils étaient en train de faire. Et dans le texte qui suit ce que nous avons lu, il nous est dit que certains ont pris un jugement contre eux-mêmes, dans ce sens que ça ne les a pas bénis, mais plutôt Dieu aurait pu leur faire leur reproche en disant « Mais tu as vu dans quel état tu es pour venir devant moi, tu as vu comment tu es là maintenant ?» pour venir te présenter devant moi et lever les mains vers le ciel. Mais regarde dans quel état tu es. Donc que chacun s'examine lui-même. Mais vous avez remarqué, il est dit et qu'ils prennent le pain et le vin. Et je crois que quand on partage le pain et le vin, j'espère que jamais je ne prendrai le pain et le vin par habitude. J'espère. Alors comme on le prend toutes les semaines, les habitudes, elles peuvent vite venir, hein, vite arriver, hein, toutes les semaines. On pourrait le prendre tous les 15 jours, on pourrait le prendre une fois par mois, on pourrait le prendre 4 fois par semaine. Ça devrait représenter toujours la même valeur et c'est toujours avec la même intensité qu'il nous faudrait prendre le pain et le vin. Alors, on va parcourir le sens de la mort de Jésus à la croix ce matin. On va parcourir cela afin que vous compreniez qu'est-ce que l'on fait quand on partage le pain et le vin. Et surtout dans un moment, parce que tout à l'heure on prendra le pain et le vin, évidemment on le prendra. J'aimerais, vous qui êtes croyants, vous qui avez fait la paix avec Dieu, j'aimerais que ce soit l'occasion d'avoir une rencontre très, très personnelle et très intime avec votre Rédempteur. Que ce ne soit pas simplement « j'ai pris ma Sainte-Seine, je suis béni pour ma semaine », mais que ce soit un temps de grâce, un temps de rencontre privilégié, où dans ce moment-là, vous allez pourquoi pas être délivré, pourquoi pas être guéri, parce que Dieu peut le faire. Pourquoi pas être renouvelé, oui, parce que Dieu peut le faire également. Alors il n'y a pas un moment particulier dans le culte, mais je crois que s'il y a un moment solennel, c'est certainement celui-ci, quand je me présente devant Dieu avec le pain et le vin, en mémoire de ce qu'il a fait pour moi, que je réalise par la foi ce qu'il a accompli pour moi et que je peux saisir ainsi une grâce nouvelle et une bénédiction toute trouvée. Alors, j'imagine que vous n'avez jamais oublié le jour où votre vie a changé. Je pense que le jour où vous avez rencontré Jésus, c'est marqué au fer blanc dans votre conscience, c'est quelque chose qui vous a interpellé, parce qu'en général, quand nous rencontrons le Seigneur, c'est le jour du salut, et on est touché par l'amour de Dieu, à ce moment-là, on est vraiment, peut-être même tout ému de tant de grâce. Comment Dieu a-t-il pu me pardonner? Comment Dieu a-t-il pu user de tant de bonté à mon égard? Mais on peut être également quelque part terrassé par ce que Jésus a dû payer comme prix. Ce que Jésus a dû payer comme prix. Jésus-Christ nous demande de nous en souvenir chaque fois que l'on prend le pain et le vin, chaque fois que l'occasion se présente. Et aujourd'hui, c'est un souvenir mémorable. Si vous regardez la définition de mémorable, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est marquant, c'est même quelque chose qui est historique d'ailleurs, c'est quelque chose qui est inoubliable et qui se veut ineffaçable. Je ne veux pas oublier un seul instant l'agonie de Jésus, ce que Jésus a souffert, ce qu'il a payé comme prix pour que je sois sauvé. Alors on revient sur l'œuvre de la croix et la première chose qu'on peut dire, c'est que la mort de Jésus à la croix a été une mort tellement humiliante. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 50, il est dit ceci, et au verset 6, c'est prophétique d'ailleurs, c'est prophétique concernant le Messie. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Vous avez pratiquement le même passage, pratiquement la même chose dans les évangiles, notamment l'évangile de Marc, au chapitre 14, et au verset 65, alors que Jésus va être bientôt crucifié, il a été arrêté, il est rassemblé devant, pour ainsi dire, un tribunal. Quelques-uns, Marc chapitre 14, verset 65, quelques-uns se mirent à cracher sur lui et à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des gifles. Crachat, coup de poing, gifle. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est résumé dans cette parole, au chapitre 12 et au verset 2, Jésus, gardez les regards sur Jésus, frères et sœurs, parce qu'il est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix et méprisé l'ignominie. L'ignominie, ça veut dire la honte. La honte. Imaginez un homme jeté, livré à la torture, on peut presque dire cela, livré au cou, livré à un lynchage en public, pratiquement. C'est pratiquement une mise en scène. Le temps qu'il a été arrêté, c'est en pleine nuit qu'il est arrêté, et le temps qu'il soit mené devant le tribunal et qu'ensuite il soit exposé sur le mont Golgotha pour être crucifié, une mise en scène, il a été roué de coups, on lui a craché dessus, on l'a insulté. Qui de vous aurait accepté ça? Qui de vous aurait supporté ça? Qui de vous aurait été d'accord avec cela? C'est un déferlement de colère, c'est un déferlement de haine, de révolte. J'ai le sentiment qu'à ce moment-là, le diable est furieux. J'ai le sentiment qu'à ce moment-là, Satan est révolté plus que tout. Et avec sa haine, il se déchaîne sur le Fils de Dieu. À croire que la condamnation devait être à la hauteur de l'offense. La condamnation devait être à la hauteur de l'offense. En général, quand quelqu'un est mené au tribunal, il va être jugé. Et en général, il va être jugé sur des faits. Et la condamnation devrait refléter la culpabilité, les faits. Plus les faits sont énormes, et plus la sentence doit être lourde. Plus les faits sont mineurs, et plus il faut être juste dans son jugement, et certainement pas trop sévère. Mais là, ça se finit à la croix. Ça se finit par l'agonie de la croix, qui va durer des heures d'ailleurs. Ça se finit à cet endroit-là. Dans l'Épître aux Romains, on comprend mieux certainement le sens de cette mort tellement humiliante. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4 et au verset 25, il est dit « Jésus, notre Seigneur, a été livré pour nos offenses. » Cette expression, elle est redoutable. Il a été livré pour nos offenses. Parce que, ça me rappelle, parce que les livres d'histoire en parlent, ça me rappelle la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, où certains ont été livrés à l'ennemi. On les a livrés, on a mis la main sur eux, on les a piégés, on a donné du renseignement et on a livré à la mort des gens qui étaient innocents. Jésus a été livré pour mes offenses. Quand je réalise cela, mais j'ai du mal à apprécier, certainement dans toute sa dimension, ce que représente l'amour de Jésus à mon égard. Et puis la mort de Jésus, ça a été une mort tout en souffrance. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, Luc chapitre 22, et au verset 15, Jésus dira « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit également au chapitre 2 et au verset 9 et 10, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Deux fois, dans la même phrase, on insiste, la mort qu'il a soufferte, il souffrit pour nous. Vous savez qu'il est possible de mourir sans souffrir. Hein ? Il y a des gens qui se couchent le soir et dans leur sommeil, ils meurent. Et on a tendance à dire c'est une belle mort. Ils n'ont pas souffert. Mais il est possible de mourir en souffrant terriblement. Terriblement. Et là, vous remarquerez dans ce passage qu'on a désiré torturer ce Jésus-là, comme malheureusement les hommes ont quelquefois désiré torturer leurs semblables, afin qu'ils meurent dans d'abominables souffrances. Là aussi, on ne peut pas être fier de cela. La France porte une histoire terrible dans les guerres de religion, par exemple. Les guerres de religion. Quand vous pensez à ceux qu'on a écartelés, à ceux qu'on a ébouillantés, certains, on leur enlevait la peau, et après, on les jetait, on les recouvrait de sel, et après, on les jetait dans de l'huile bouillante ou de l'eau bouillante, enfin bref. Mais comment on peut en arriver jusque-là, quoi ? Comment on peut en arriver jusque-là ? La volonté de l'homme, parce que le cœur de l'homme est mauvais, hein. La volonté de l'homme, quand il en veut à quelqu'un, c'est qu'il meure, mais pas facilement, et que ça dure le plus longtemps possible, pour que ce soit de la torture, pour que ce soit quelque chose de terriblement affligeant. Alors, la mort de Jésus à la croix ne voyait rien d'autre qu'une mort toute en souffrance. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été rapide, mais ça a été très, 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 très long. Des heures et des heures et des heures d'agonie. Avant même d'ailleurs qu'il ne soit livré, quand il est dans le jardin de Gethsémané et qu'il prie en disant « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si la mort qui arrive pouvait s'éloigner de moi, si la torture qui vient pouvait s'éloigner de moi, mais il dira non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il faudra passer par là, il faudra aller jusqu'à la mort, jusqu'à l'agonie. » Il nous est dit que dans le jardin, alors qu'il est en train de prier, il va suer des grumeaux de sang. Quelle douleur, quel combat, quelle épreuve à ce moment-là, quand il livre sa vie à la mort et qu'il dira « L'heure est venue, c'est le moment venu ». Et à ce moment-là, les gardes entrent dans le jardin et c'est ainsi qu'il va être livré par Judas. La désobéissance de l'homme vis-à-vis de Dieu est amère. Ne croyez pas qu'en faisant le bien, vous irez au ciel. C'est en faisant la paix avec Dieu que vous irez au ciel. Ce n'est pas en faisant le bien, parce qu'on fait le bien, mais on fait le mal aussi. Et comment vous jugez cela, vous ? J'ai fait plus de bien que de mal. C'est très relatif, c'est très aléatoire. Qui peut en juger ? Mais si Dieu juge chacun d'entre nous, malheureusement, il nous juge coupables. Et on a besoin de sa grâce, on a besoin qu'il nous gracie, on a besoin de faire la paix avec lui. Et il n'y a que lui qui peut faire cela. Alors, on ne peut pas simplement par et en faisant le bien aller au ciel. La désobéissance que vous avez manifestée depuis des dizaines d'années, ou peut-être depuis que vous en avez pris conscience depuis quelque temps vis-à-vis de Dieu, c'est votre vie sans lui, sans Dieu. C'est votre vie sans foi. C'est votre vie avec toutes ces tares, toutes ces défaillances. C'est tout cela qui a amené Jésus à la croix. Et c'est pour cela qu'il faut lui demander pardon. C'est pour cela qu'il faut lui demander pardon et lui demander grâce. Jésus-Christ, en donnant sa vie à la croix, tout en souffrance, va éprouver toute l'amertume de ce que représente la douleur et la souffrance. Aujourd'hui, vivre sans Dieu, c'est cruel, c'est très sévère, c'est très dur d'ailleurs. Mais n'oubliez pas que Jésus donne sa vie. C'est un acte volontaire, c'est un acte universel, c'est pour tout le monde. C'est un acte qui est vraiment, vraiment, vraiment réfléchi. Alors, ne dites plus jamais, s'il vous plaît, ne dites plus jamais que Dieu ne vous comprend pas. Parce que vous, vous avez souffert, parce que vous, vous avez connu des problèmes. Regardez ce qu'il a souffert. On n'en aurait pas supporté le quart, certainement. On n'aurait même pas voulu y aller, certainement pas. Vous ne pouvez pas dire que Dieu ne vous comprend pas. Vous ne pouvez pas dire que Dieu n'a pas d'affection pour vous. Quelle preuve d'amour, accepter de mourir jusque-là. Ce que Jésus fait, c'est un véritable martyr, hein, ce qu'il va souffrir. D'ailleurs, quand les gens souffrent depuis trop longtemps, et quand vous leur demandez comment ça va, ils vous diront « je vis le martyr ». On comprend ce que ça veut dire, hein ?« Je vis le martyr », c'est abominable ce que je souffre, c'est abominable tout ce que je subis. Dans le livre des Actes, au chapitre 2 et au verset 23, l'apôtre Pierre prêche. Et il dira ceci à ces Juifs qu'il a en face de lui, « Cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le plan arrêté, selon la décision, la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Un peu plus loin, au chapitre 13 et au verset 38, toujours dans le livre des Actes, Encore une prédication. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 28. Il est dit ceci: « Quoique ils ne trouvent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. » Ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Vous comprenez que Jésus est mort, mais il n'a pas couru vers la croix en disant « Je veux mourir, je veux mourir !» On l'a arrêté pour le faire mourir. Martyr, par déformation, c'est devenu quelqu'un, c'est le synonyme de quelqu'un qui a été supplicié. Vous prenez l'exemple d'Étienne, le premier martyr de l'Église chrétienne, qui a été lapidé parce qu'il a, annoncé l'œuvre de Jésus à la croix, et devant une foule qui était en, révolte, en furie, eh bien, il a été lapidé ce jour-là, il est mort ce jour-là. Et on dira d'Étienne qu'il a été un martyr. Mais en somme, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a montré qu'est-ce que c'était qu'être croyant, qu'être chrétien. Et martyr, ça veut tout d'abord dire un témoin, un témoin. Et quand Jésus meurt sur la croix, c'est un témoignage pour vous. Il vous rend témoignage, il vous dit quelque chose. C'est un message que vous devez entendre lorsque Jésus donne sa vie, parce que finalement, il a accepté d'aller jusque-là, il a accepté de mourir, et non seulement lui le fera pour vous, mais toute l'histoire de l'Église, en commençant par Étienne, est remplie de témoins, est remplie de témoignages, de gens qui ont accepté d'aller jusque-là, jusqu'à la mort, pour ne pas renier leur foi. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est ça. Est-ce que vous êtes réellement croyant? Est-ce que vous avez réellement fait une expérience avec Christ, avec Jésus? Est-ce que réellement, quoi qu'il arrive, et si demain vous deviez passer au tribunal parce qu'on va vous juger, parce que vous êtes chrétien, vous êtes croyant, est-ce que vous garderez la foi? Est-ce que vous direz « Je ne renierai jamais ma foi ». Ça aussi, ça a été un combat en France. Faire renier la foi des, gens. Si tu renies, tu ne mourras pas. Si tu ne renies pas, c'est le martyr, c'est le calvaire pour toi. Est-ce qu'on acceptera d'être témoin jusqu'à la fin, jusqu'au bout? Ça, c'est une question qu'il faut se poser soi-même et on ne peut pas répondre facilement à la cantonade comme ça. Je crois que c'est bien de considérer son cœur devant Dieu et s'il est difficile de dire « Sans aucun doute, je demeurerai ferme », l'apôtre Pierre l'a dit, et l'apôtre Pierre a renié le Seigneur. Ça n'a pas duré longtemps avant qu'il le renie. Mais au moins, vous pouvez dire, « Seigneur, je voudrais tellement tenir jusqu'au bout. Alors s'il devait arriver des moments difficiles, garde-moi près de toi. » Parce que vous savez, quelquefois, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au martyr. Il suffit que la maladie frappe notre vie et tout s'ébranle. Tout s'ébranle. On perd tous les moyens. On perd toute notre assurance, on perd toutes nos certitudes, et parce qu'on nous a fait un, mauvais diagnostic, atteint de cancer, vous avez une dépression, vous apprenez une mauvaise nouvelle, un de vos proches est décédé, et là il y a tout qui s'effondre. Et vous dites, mais ça sert à quoi de croire? C'est là que se trouve déjà l'enjeu, avant d'imaginer une mort terrible à cause de votre foi. Serez-vous un témoin jusqu'au bout? En tous les cas, Jésus vous a montré l'exemple. Lui, il a été pour vous. Lui, il a accepté de donner sa vie. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, nous dit « Puisque nous sommes environnés de tellement de témoins, d'une si grande nuée de témoins, alors fixons les regards sur Jésus et n'abandonnons jamais la foi. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les regards sur Jésus. » Maintenant, si Jésus donne sa vie, frères et sœurs, c'était nécessaire. Et c'était un sacrifice. Sacrifice. Nécessaire. Apôtre Paul dit aux Éphésiens, dans, dans la lettre qu'il leur envoie, au chapitre 5 et au verset 2, « À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Dans l'Épître aux Hébreux, un peu plus loin, au chapitre 9 et au verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Il s'est offert lui-même comme un sacrifice. Et puis, c'est au verset 26 que c'est précisé. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Sacrifice. On sait tous ce que signifie faire un sacrifice, n'est-ce pas ? Vous avez déjà fait des sacrifices ? Certainement. Vous en avez fait pour aider quelqu'un, pour sortir quelqu'un d'une difficulté, ou alors pour vous en sortir, vous avez fait des sacrifices. Vous avez abandonné certaines choses, vous avez accepté certaines choses, vous avez été capable de pardonner des gens qui vous ont fait du tort. Vous avez fait des sacrifices. On fait un sacrifice pour quelque chose. Jésus est mort comme sacrifice, comme offrande. Il s'est offert. Vous comprenez qu'en faisant cela, il l'a fait pour vous. En fait, il a voulu réparer un crime. Et vous étiez séparés de Dieu. Donc, il a accepté de livrer sa vie de cette manière-là, sans réserve, un engagement total. Il y avait un prix et il y avait une valeur de rachat, si vous voulez, à vos fautes. Pourquoi Jésus n'est pas venu, faisant tout ce qu'il a fait? Et au dernier moment, pourquoi est-ce qu'il n'est pas monté au ciel dans un tourbillon de gloire en disant « J'ai apporté le salut à l'humanité, c'est réglé, je l'ai dit ». Il aurait pu faire ça. Non, c'est le Fils de Dieu. Il aurait pu annoncer à toute la terre « J'ai arrêté mon plan, les œuvres du diable, un jour ou l'autre, ce sera terminé ». Il pouvait le faire. Pourquoi est-ce qu'il meurt ? Pourquoi est-ce qu'il va jusque-là ? C'est le Fils de Dieu. Il a délivré les possédés, donc il a autorité sur le diable. Il a guéri les lépreux, il a ouvert les yeux des aveugles, il a même rendu la vie aux morts. Donc, le diable n'a pas de pouvoir face à Jésus. Il suffisait que Jésus dise « Je suis venu, une page de l'histoire de l'humanité se tourne, maintenant c'est la grâce, c'est le salut, c'est la liberté pour tout le monde. » Vous pouvez le faire. Il a décidé de se sacrifier. Vous devez comprendre quel était le plan de Dieu. Vous devez comprendre que Dieu avait dit à l'homme dès l'origine, il avait dit à l'homme, le jour où tu me désobéiras, je paraphrase, le jour où tu me désobéiras, tu mourras. Et Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et curieusement, physiquement, ils ne sont pas morts. On aurait pu dire, Dieu est un menteur, Dieu est un manipulateur. Dieu n'est pas si réel que cela. Puisqu'il a dit qu'on mourrait, on n'est pas mort. En fait, il venait à l'instant de mourir. À l'intérieur, il ne s'en était même pas rendu compte. Il y avait une coupure, une séparation avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, la vie sur terre a été un enfer. Il y a une grosse différence entre Éden, le paradis, et ce qu'il y a eu après. Hein. Si vous voulez vous en convaincre, relisez les premières pages de la Genèse. C'est très clair. D'ailleurs, une fois qu'on a désobéi à Dieu, il n'a pas fallu longtemps avant que dans la première famille qui existe sur la terre, on commette un crime. Il n'a pas fallu longtemps. La nature de l'homme est mauvaise et Abel a été tué par son frère Caïn. Il n'a pas fallu longtemps. Alors vous comprenez que quand même, il y a une offense et elle vaut cher cette offense. Et si vous passiez en jugement, mais il n'y aurait pas de caution possible. Ou alors, non, il n'y aurait pas de caution possible. Le prix est trop élevé. Le seul moyen de vous racheter, le seul moyen de vous faire sortir de prison, le seul moyen pour que la caution soit suffisante, c'est que quelqu'un verse son sang à votre place. Ça aurait été terrible que Dieu dise maintenant que chacun trouve son salut en tuant quelqu'un d'autre. Eh, ça va pas. C'est de la folie, ça. Personne n'ira jamais au ciel en ayant tué quelqu'un. Hein. C'est de la folie, ça. Par contre, Dieu dit, je vais envoyer mon Fils et lui va donner sa vie pour vous. Vous vous rendez compte? Il va livrer sa vie alors qu'il n'a aucun intérêt à faire cela. Et qui plus est, il y est pour rien. Est-ce que vous accepteriez de faire 30 ans de prison pour quelqu'un d'autre, vous? Dites. Oui ou non? Personne. Même pas un jour, d'ailleurs. Même pas une heure. Si je suis innocent, je suis innocent. J'accepte pas de payer pour quelqu'un d'autre. Encore moins livrer ma vie. La Bible dit que, au temps marqué de Dieu, Christ est mort pour des pécheurs. Ce que vous devez réaliser avant qu'on prenne le pain et le vin, c'est que Jésus a sacrifié sa vie. C'était le sacrifice nécessaire. Aucun autre moyen d'être réconcilié avec Dieu. Il y avait un prix à payer. Et il fallait abolir le péché, on l'a lu, et il fallait purifier la conscience. Vous purifierez jamais votre conscience en pratiquant le bien. C'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Et seul le sang de Jésus peut purifier de tout péché. Et la mort de Jésus, ça va de soi, c'est ce qui suit, ça a été une mort pour expier, une mort expiatoire, payer pour quelqu'un d'autre, réparer un crime, racheter votre vie. La rançon a été payée. Aujourd'hui, il existe encore un otage français dans le monde. Et il y a vous entendez l'actualité, et on essaye de faire des démarches pour que cet otage français soit libéré. En général, qui dit otage dit rançon. Ça a souvent fonctionné comme ça. Eh bien, si je vous disais que le prix à payer pour votre liberté, je vous l'ai déjà dit, était tellement élevé, la rançon était tellement élevée, pour vivre dans la justice, ça ne se fait pas comme ça, hein. Pour être pardonné, pour être délivré, pour être guéri, il ne suffit pas de claquer des doigts. Par contre, il suffit à Dieu de dire un mot, et ça suffit. Un seul mot de toi, et je suis guéri. Dites, vous vous rendez compte que là, ce matin, si vous êtes malade, si vous avez une affection qui dure depuis des dizaines d'années, depuis votre enfance, vous vous rendez compte que Jésus n'a qu'à dire un mot, et vous repartez de ce lieu entièrement guéri. Ouais, entièrement guéri. Jésus n'a qu'à porter son regard sur vous, même sans dire un mot, et dire « Je le veux, sois guéri, je le veux, tu es délivré. » En un instant. Sauf qu'il faut le demander. Et souvent, on ne demande pas. Et souvent, on n'y croit pas. Et souvent, on n'y pense pas. Eh bien, la Sainte-Seine, ça vous permettra cela. Ça vous permettra de vous en souvenir. Que Jésus, en donnant sa vie, a porté toutes nos maladies. Il a porté toutes nos meurtrissures. Il a porté toutes nos défaillances. Dans ces meurtrissures, la Bible dit, nous avons été guéris. On lit ces passages dans Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53. Et verset 6, l'Éternel a fait retomber sur lui, l'iniquité de nous tous. Jean-Baptiste, qui a précédé Jésus, ne s'y est pas trompé. Alors que Jésus va commencer son ministère, il est tout au début de son ministère. Jean-Baptiste le voit passer près du lac de Tibériade. Il va pointer le doigt sur lui en parlant à ses propres disciples, ceux qui le suivent, ceux qui sont avec lui. Et il va pointer le doigt sur Jésus en disant, regardez bien, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Référence à la première Pâque dans l'histoire d'Israël, quand on a sacrifié un agneau dans la nuit et que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte libre. La Pâque. Jésus, c'est l'agneau, pas l'agneau des hommes, mais c'est l'agneau de Dieu. Et dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 24, première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24, il est dit ceci, en parlant de Jésus, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il est mort pour vos péchés. En fait, il a fallu sa mort pour que vous viviez. Vous l'enlevez, vous l'éloignez, vous l'ignorez ce Jésus-là et vous mourrez. Vous l'enlevez de votre vie, vous l'ignorez, vous n'en faites aucun cas et vous mourrez dans vos offenses. Seul, l'œuvre de Jésus vous pardonne, c'est l'œuvre expiatoire. Et je continue, on va arriver à notre fin, un acte volontaire. Voyez ce qu'il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 17. Je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. mais je la donne de moi-même. Personne ne m'enlève ma vie. Certains ont pensé, ce Jésus, il s'est fait piéger au dernier moment, au moment où il ne l'attendait pas, hop, on a mis la main sur lui. Mais non, il le savait. Il a accepté d'aller jusque-là. D'ailleurs, quand ses disciples voudront le défendre, ça ne va pas durer longtemps, Jésus dira, mais vous ne pensez pas que j'aurais pu commander à des milliers d'anges d'arriver à l'instant et de souffler et de me débarrasser de ces quelques gens qui viennent avec des épées et des bâtons. Vous pouvez tout faire. Il a accepté de livrer sa vie. Il l'a fait volontairement. Dans ce fameux jardin, il y a une phrase, il y a un contexte qui n'est pas souvent repris, mais qui est quand même assez saisissant. Quand Judas, celui qui le livrait, revient en pleine nuit dans le jardin, avec, comme je vous l'ai dit, des gens pour l'arrêter, ces quelques personnes rentrent et Jésus leur demande « Qui cherchez-vous ? » Vous avez cela dans le deuxième passage, mais il y a quelques petits points, donc le texte est plus long que cela. « Qui cherchez-vous ? » Et ces gens vont dire « On cherche Jésus. » Et Jésus va dire « C'est moi. » Et au moment où ils disent « C'est moi », vous savez quoi ? Ces gens sont précipités par terre, par une force incroyable. Ils sont jetés à terre. Moi, j'aurais été à leur place. Je me serais dit, c'est passé quoi, là ? Alors, ils se relèvent. Qui cherchez-vous ? Jésus, c'est moi. Et ils vont lui mettre la main dessus après que Judas l'ait embrassé sur la joue. En fait, il a donné sa vie. On ne lui a pas pris sa vie, là. En fait, comprenez bien que Jésus qui meurt à la croix, c'était prémédité. C'était voulu de Dieu. C'était préparé. C'était même annoncé dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, tous les Juifs aujourd'hui qui disent que Jésus n'est pas le Messie, ils mentent, parce que c'est écrit dans leur prophétie. C'est écrit que le Messie viendra de telle et telle et telle manière. Et il suffit de faire une correspondance, une concordance entre les prophéties et le parcours de Jésus, et vous avez vite fait le lien. Sauf que ça les dérangeait quelque peu. Préférer rester dans leur religion, dans leur pratique, j'irai au ciel parce que je le mérite quand même. Non, on ne va pas au ciel à cause de cela. Mais Jésus n'a engagé personne d'autre dans ce dernier combat. D'ailleurs, il nous est dit que tous ceux qui étaient avec Jésus vont s'enfuir. Mais Jésus va s'adresser à ces hommes méchants qui viennent l'arrêter en disant « Jésus, c'est moi, laissez ces gens partir. Ne leur faites rien. C'est moi que vous voulez, ce n'est pas les autres. Plus tard, ils auront à souffrir. » Plusieurs vont être martyrisés de ses disciples. Mais pour l'instant, seul Jésus souffrira. Et ce matin, il faut nous rappeler que seul Jésus a souffert. Seul Jésus a souffert pour moi. Seul Jésus a livré sa vie pour moi. En fait, Jésus va être arrêté, il va être mené devant le souverain sacrificateur et puis devant le gouverneur. Et plusieurs vont l'interroger. Et c'est surprenant. C'est comme s'il est au tribunal, il plaide. Il va pas demander un avocat. D'ailleurs, la Bible dit que Jésus est mon avocat. Donc, il peut se débrouiller tout seul en tant qu'avocat. Et en fait, à des moments, il va parler. Et à des moments, il va se taire. Ce qui va surprendre un gouverneur qui va lui dire, « Mais est-ce à moi que tu ne parles pas ? J'ai le pouvoir de te libérer. J'ai le pouvoir de te condamner. Tu devrais me dire quelque chose. » Jésus va lui dire, « Écoute, là, il va lui parler. Il va lui dire, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Zéro. Je donne ma vie. Personne ne me l'ôte, je la livre de moi-même. D'ailleurs, celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » En fait, c'était tout arrangé, ça. Alors il a été seul jusqu'à la croix et le plan de Dieu s'est accompli. Et je conclus en vous disant que c'est le plan parfait. C'est ça la conclusion, c'est le plan parfait. Dans Ésaïe, au chapitre 42 et au verset 21, il est dit ceci. « L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Pour le bonheur d'Israël, l'Éternel a voulu publier une loi grande et magnifique. Tout le peuple d'Israël, pendant des siècles, n'a jamais pu accomplir la loi. Jésus est venu accomplir la loi. Il ne l'a pas rayée, il ne l'a pas balayée, il ne l'a pas abolie. Il l'a juste accomplie. C'était impossible pour les hommes de se réconcilier avec Dieu, mais toute la loi était l'ombre des choses à venir. Toute la loi était donnée pour que Jésus vienne accomplir la loi en livrant sa vie, le sang innocent. Il a livré sa vie. Alors, finalement, avant de prendre le pain et le vin, je dois me souvenir que les plans de Dieu sont parfaits et l'Éternel a voulu pour mon bonheur une loi parfaite, une loi magnifique, une loi grande. Mais n'oublie jamais, mon frère, ma sœur, que ça a coûté la vie de Jésus. C'est une belle loi, c'est une loi magnifique. Aux yeux des hommes, c'est insensé. L'apôtre Paul dira « prêcher la croix », mais c'est de la folie. Non, c'est la justice divine, c'est la justice de Dieu, c'est le plan parfait. Dans l'évangile de Jean, pourquoi croyez-vous que Jésus, en donnant sa vie, c'est l'avant-dernière parole qu'il prononce? Il dira « tout est accompli ». L'avant-dernière ou la dernière, entre Père, je remets mon esprit entre tes mains, et tout est accompli. Pourquoi est-ce qu'il dit « tout est accompli » ? Parce que c'est parfait maintenant. Cette expression « tout est accompli », les hommes l'utilisent très souvent, notamment les artistes. Quand un artiste a achevé un tableau, une peinture, et que vraiment il a achevé la peinture, à l'époque, dans ce monde grec et romain, il avait l'habitude de dire « c'est accompli ». Tetelestai, parfait, c'est accompli maintenant. Voyez ce que Jésus a fait ? Il n'y a pas de retouche à faire, il n'y a rien à redire. L'œuvre est parfaite. Et je voudrais quand même vous lire à nouveau ce qu'il est dit dans cette lettre aux Hébreux. Vous l'avez à l'écran, Dieu, au chapitre 1er, au verset 2, dans ces derniers temps, vous parle par Jésus. Ce matin, Dieu vous parle par Jésus. Et il vous dit qu'il a été établi héritier de tout, de tout. Allez-vous faire de Jésus votre rédempteur ce matin ? Vous qui avez fait de Jésus votre rédempteur il y a très, très, très longtemps, j'aimerais simplement que pendant que l'on entre dans la louange maintenant, ensemble, on a béni Dieu tout à l'heure, maintenant on va le louer. On a rendu grâce à Dieu, on a dit merci à Dieu pour tant de bienveillance à notre égard. Maintenant, on va lui dire combien il nous est précieux. Et je voudrais que pendant ce temps-là, on va s'incliner ensemble un instant et on va prier. J'aimerais que pendant ce temps-là, frères et sœurs, on se souvienne de Jésus à la croix. Et vous voulez que je vous dise, si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, si vous n'avez pas fait la paix avec lui, si vous n'avez pas rencontré en Jésus votre Rédempteur, ne partez pas de ce lieu sans faire la paix avec lui. Demandez-lui pardon, demandez-lui grâce. Tout cela vous conduira vers le baptême, forcément. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et vous vous engagerez avec Dieu dans les eaux du baptême. Et puis vous reviendrez. Et tous les dimanches, vous célébrerez la mort et la résurrection de Jésus. Et vous vous réjouirez de ce que Jésus a fait pour vous. Et vous, frères et sœurs, qui êtes dans ce lieu saint, c'est un lieu saint ce matin, vous allez croire que Dieu va intervenir et qu'il va agir en votre faveur encore, et qu'il va vous permettre de l'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, nous venons devant toi, et nous réclamons ta grâce. Merci pour l'œuvre de la croix, merci d'avoir payé le prix. Pardonne-moi d'être venu souvent à l'église, par habitude. Pardonne-moi, alors que je suis à l'église, de penser déjà à ma semaine, de penser déjà à ce que je vais faire tout à l'heure, de penser déjà à l'après-église, à l'après-culte. Seigneur, je suis dans ce lieu et je veux y être tout entier. Je suis là devant toi et je ne veux pas que mon esprit s'échappe. Je ne veux pas que mes pensées vagabondent. Je veux qu'elles restent centrées sur toi. Je veux comprendre et réaliser encore ce matin l'œuvre de la croix. Quelle mort humiliante, quelle mort terrible tout en souffrance, quel supplice, quel martyr, sacrifice pourtant nécessaire, sacrifice nécessaire et mort expiatoire, parce que tu nous as aimés, parce que tu m'as aimé. Merci pour tant de grâce, merci pour tant d'amour, merci pour tant de bonté, Seigneur.